France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
La sécurité sociale a 80 ans et cela se fête. En 1945, son père fondateur, Pierre Larocque, affirmait, je cite, vouloir mettre fin à la hantise du lendemain. 8 décennies plus tard, le principe demeure, mais les contours de l'inquiétude ont changé. Vieillissement de la population, explosion des dépenses de santé, précarisation des trajectoires professionnelles, montée du chômage, pression financière, pression du secteur privé, crise climatique, j'en passe. Alors, quels seraient les contours d'une sécurité sociale du 21e siècle? Notre modèle présent est-il adapté à l'avenir? Comment préserver l'esprit de 1945 dans un monde nouveau et continuer de faire vivre ainsi les principes de solidarité collective? Deux invités pour en débattre ce soir. Julien Damon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste de la protection sociale et enseignant à Sciences Po ainsi qu'à HEC, et l'auteur d'un petit éloge de la Sécu qui a paru aux presses de Sciences Po le 3 octobre dernier. Vous êtes venu par ailleurs avec le livre de la Sécu et un petit stylo également siglé Sécurité sociale. Face à vous, Nicolas Da Silva, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, maître de conférence à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Vous êtes l'auteur, quant à vous, de La bataille de la Sécu qui a paru en 2022 aux éditions La Fabrique. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir. « 80 ans de la sécurité sociale », Julien Damon, cet anniversaire, est-ce que c'est une célébration ou une commémoration? Est-ce qu'on célèbre un modèle et ses principes, sorte d'idéal qui reste à parfaire, à adapter dans un monde nouveau, ou bien on commémore un modèle qui se désagrège lentement, qui n'existe déjà plus, qui disparaît à mesure que s'éloigne le XXe siècle?
Sur 8 décennies, quand même, on peut célébrer des réussites du système. Les réussites du système, c'est que sur 8 décennies, la France a vu l'espérance de vie des gens qui vivent en France progresser de 20 ans. On a vu la mortalité infantile être divisée par 10. Vous citiez la peur de la hantise du lendemain. Certes, il y a des formes contemporaines de précarité, incontestablement, mais ça n'a plus rien à voir avec la façon dont les gens vivaient en 1945. La lutte contre l'insécurité sociale, qui est toujours un des objectifs de la maison sécurité sociale, c'est quelque chose qui a progressé. Je termine pour dire que en 1945, il y avait peu de gens qui arrivaient à l'âge de la retraite tel qu'il avait été fixé en 1945. La CGT appelait ça la retraite des morts, un peu plus anciennement. D'ailleurs, aujourd'hui, la retraite, c'est une période très majoritairement heureuse. Donc, pour tout cela, à la sécurité sociale, on peut dire chapeau bas. Ceci dit, il faut être précis, c'est pas parce qu'il y a la sécurité sociale qu'il y a le progrès médical. Quand on parle, par exemple, de la progression de l'espérance de vie, ce qu'a permis la sécurité sociale, c'est à tout le monde de bénéficier de ce progrès médical. Donc, contre ceux qui tempêtent en disant ça marche pas, c'est pourri, c'est inefficace, non, sur 8 décennies, il y a incontestablement des progrès sociaux qui ont été amenés, conduits, accompagnés, chacun choisira le terme, par la sécurité sociale. Ce qui n'empêche pas, et je terminerai par là, qu'il y a des limites, des difficultés, des insuffisances, des échecs.
Nicolas Da Silva, même gratitude, au fond, à l'égard de la sécurité sociale, on lui doit beaucoup, et vous tirez votre chapeau vous-même à la sécurité sociale ?
Bien entendu. Il faut vraiment essayer de se détacher du discours un petit peu décliniste, dramatisant sur la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est une formidable réussite. C'est-à-dire qu'elle a permis, ça a été dit, d'améliorer l'espérance de vie, d'améliorer l'accès aux soins. Ça a été évoqué, mais il faut vraiment insister dessus. C'est pas parce qu'on invente des médicaments efficaces que ça permet aux gens de soigner. Ce qui permet aux gens de se soigner, c'est le fait qu'ils puissent les acheter. Donc solvabiliser l'accès aux soins. Et ce qui permet ça, c'est la sécurité sociale. En tout cas, en France, c'est comme ça que ça a marché. Et c'est la même chose sur d'autres aspects de la sécurité sociale. Par exemple, sur les familles, en 45, la sécurité sociale, c'est avant tout la branche famille, notamment pour distribuer des compléments de salaire. Et donc, en fait, ça sort les gens de la pauvreté. Ça facilite la vie énormément. Sur les questions de retraite, on a quand même une situation qui est assez incroyable en France. C'est qu'on a un taux de pauvreté des retraités qui est l'un des plus bas au monde. Et donc, tout ça, c'est vraiment des formidables réussite. Et en fait, on pourra y revenir probablement, mais formidable réussite finalement à pas cher. C'est-à-dire que la socialisation des soins via la sécurité sociale, c'est une façon de prendre en charge les risques sociaux. Et il y en a d'autres.
La sécurité sociale, c'est pas cher, dites-vous ?
Oui, voilà. Et du coup, c'est ce que j'essaie de dire. Hein. Donc, c'est une façon de prendre en charge les risques sociaux. Et il y en a d'autres. Et les autres, ce sont lesquels ? Notamment le marché. Et en fait, le 19e siècle, pour revenir à l'avant-avant sécurité sociale, c'est une période où, lorsqu'on a des problèmes de santé, lorsqu'on est un peu trop vieux pour travailler, lorsqu'on a des soucis quelconques, en fait, ce qui est l'institution majeure, c'est soit la libre prévoyance, donc chacun se débrouille de son côté, et ça marche pas bien du tout, soit ces premières inventions que sont les sociétés de secours mutuels qui vont anticiper la sécurité sociale. Et en fait, la solidarité, on se rend compte que ça marche beaucoup mieux que le marché. Et c'est pour ça que, vu que c'est les 80 ans, il faut dire à quel point la sécurité sociale, dans l'histoire sociale, c'est une institution moderne, et que les archaïsmes, après on peut choisir évidemment les institutions qui nous plaisent le plus, c'est plutôt le marché.
On va venir, Julien Damont, au débat financier, je vous retiens tout de même un instant. Racontez-nous plutôt comment naît la sécurité sociale, et surtout dans quel contexte politique naît-elle en 1945. Au fond, il y avait déjà, dans les années 20, 30, même avant, des formes d'assurance sociale, des dispositifs multiples qui permettaient aux Françaises, aux Français de s'assurer collectivement déjà. Qu'est-ce qui a changé alors en 1945 ?
À certaines Françaises de s'assurer. Alors, ne naît pas ex nihilo en 1945 un modèle social complet. Il y a des racines, et des racines parfois très anciennes. Il y a évidemment la source mutualiste qui a été évoquée. Il y a tout ce que charitablement les paroisses voulaient bien réaliser. Il y a ce que certains univers professionnels ont organisé pour eux. Du côté des allocations familiales, vous avez eu du côté du patronat chrétien des initiatives. Et puis, dès 1910, vous avez une grande loi à répercussion limitée, mais pour créer des retraites. Dans les années 30, vous avez de premières lois sur les assurances sociales. Ce qui est créé en 1945, c'est un projet. Ce projet, c'est celui de la généralisation de la sécurité sociale. C'est-à-dire pour cela qu'on parle d'un régime général qui a vocation à incorporer, les anglo-saxons diraient, encapsuler tout le monde dans des protections collectives. Pour répondre.
Mais cette généralisation, pardonnez-moi, je vous coupe, est-ce qu'elle fonctionne véritablement en 1945?
Pas du tout.
Elle concerne d'abord les travailleurs.
Absolument.
Les travailleurs seulement,
d'ailleurs. L'ambition de 1945, c'est de se généraliser au fur et à mesure du temps. Ce qui est créé en 1945, et même les textes se réservent aux travailleurs et à leurs familles. Si vous n'êtes pas travailleur, vous n'êtes pas assuré social. Et donc, les 8 décennies de sécurité sociale, c'est 8 décennies de généralisation. D'ailleurs, de façon peut-être même, on pourrait dire, un peu brinque-ballante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est couvert, mais il y avait une ambition de 1945, c'est qu'il y ait un système unique, on pourrait même dire un régime unique. Et tout ceci s'est déroulé pendant 2 années qu'il ne faut pas célébrer pour dire que tout le monde se tenait par la main et se faisait des bisous. Hein. Mais en tout cas, d'unité dont on pourrait rêver aujourd'hui du côté politique, puisque des catholiques du MRP au Parti communiste, vous aviez un accord pour dire qu'il fallait faire des efforts pour compléter la paix et même pour continuer à assurer la paix.
En 1945, Nicolas Da Silva, il y a un rêve peut-être, c'est l'universalité des droits et plus encore de l'accès aux droits. Il faudra plusieurs décennies pour que on se rapproche de cette universalisation à travers l'aide médicale d'État, à travers divers dispositifs qui permettent d'élargir l'accès à la sécurité sociale au-delà des travailleuses et des travailleurs, au-delà même du monde du travail. À quel point cette progression à travers les décennies est-elle effective aujourd'hui ?
Alors c'est une excellente question qui revient sur ce qui a été dit, à savoir la sécurité sociale en 1945, c'est un projet. Et l'un des enjeux, c'est de comprendre que ce projet n'est pas réalisé entièrement. Et pour comprendre les raisons pour lesquelles ce projet n'est pas réalisé entièrement, en fait, il faut comprendre qu'il y a plusieurs projets. Et que, bien évidemment, il y a une période particulière qui est avant tout due à la guerre, pas forcément à la bienveillance et à la vertu des individus. On sort d'une période qui est une période de guerre qui est extrêmement traumatisante. Mmh. Et à la sortie de cette période, arrive la sécurité sociale. Alors évidemment, il y a un grand accord pour dire qu'il faut organiser de façon publique, obligatoire, la protection sociale via la sécurité sociale, mais il y a des oppositions sur comment on le fait. Et donc, aujourd'hui, on est 80 ans plus tard, et en fait, il y a un paradoxe. On célèbre les 80 ans, 1945, sauf qu'en fait, la sécu a beaucoup changé. Et les originalités de 1945 n'existent plus tout à fait aujourd'hui.
Lesquelles alors ?
Alors, l'originalité principale de 1945, enfin, disons qu'il y en a deux. La première, c'est le régime unique, le régime général. L'idée, c'est de rassembler tous les risques dans une même caisse. Et en fait, ça n'existe plus.
Mais même ça, pardonnez-moi, en 1945, ouais. Il y a déjà les régimes spéciaux, il y a déjà les régimes spéciaux selon certains métiers, selon certaines entreprises.
Et vous avez justement tout à fait raison, et ça illustre le fait qu'il n'y a pas de grand accord sur les modalités concrètes d'exercice de ce grand projet, puisque chacun va chercher à se défendre ses régimes, défendre ses spécificités, et s'il y a des lois qui veulent aller vers l'universalisation, eh bien, il y a tout un tas de groupements d'intérêts qui sont contre. L'un des exemples, pour parler par exemple de la retraite, ça va être les régimes complémentaires de retraite qui ne veulent pas être dans le régime général. Et l'un des enjeux de cela, c'est aussi des rapports de force, des rapports de pouvoir. Parce que la deuxième grande originalité de la sécurité sociale en 1945, c'est le fait qu'elle est auto-organisée. En tout cas, elle relève d'un double pouvoir entre d'un côté l'État, qui a un certain nombre de prérogatives, et de l'autre côté les intéressés, qui ont également un grand nombre de prérogatives. Et donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et cette nouveauté, elle est reconnue par tout le monde à l'époque, aujourd'hui encore, par exemple par Pierre Larocque, qui explique que l'enjeu de la sécurité sociale telle qu'elle est conçue en 1945, c'est d'en finir avec le paternalisme social. C'est-à-dire qu'avec les formes d'organisation antérieures, les gens qui cotisent, ce ne sont pas les gens qui décident de la façon dont est géré le système. Et la grande nouveauté, c'est que dans les caisses de sécurité sociale, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, il va y avoir des élections. Des élections dans lesquelles les intéressés vont prendre le pouvoir et vont avoir toute l'attitude pour essayer d'orienter la politique sociale.
Et cela, cette ambition, Julien Damon, aujourd'hui, elle est pratiquement annihilée, hein, depuis le plan Juppé en particulier. C'est l'État, largement l'État, qui gouverne les régimes de sécurité sociale. Ce n'est plus une vaste démocratie sociale et populaire comme on pouvait en rêver en 1945, non ?
Les deux grands échecs sur 8 décennies, qui ont été évoqués à sa manière par Nicolas da Silva, et je suis absolument d'accord, c'est d'une part l'échec du régime général à intégralement se généraliser. Il y a toujours ces régimes spéciaux.
L'échec de l'unification.
L'échec de l'unification. Une réussite, c'est l'universalisation. Tout le monde est couvert aujourd'hui, mais de façon différente. Hein, de façon relativement différente, alors que nous devrions, selon le projet de 1945, être tous couverts par un régime unifié. Donc, échec de l'unification. Et deuxième échec, c'est celui du projet dit de démocratie sociale. Enfin, il y a des mots forts de Pierre Larocque et autres, parmi les pères fondateurs de la Sécu, consistant à dire, on veut faire une révolution. On veut faire un ordre social nouveau. On souhaite que ce ne soit pas une bureaucratie d'État qui gère notre protection sociale. Et c'est vrai que du côté démocratique, ce qu'il incarnait, ce sont les élections. Les élections dans le régime général, il y en a eu jusqu'en 1983. Dans certains régimes spéciaux, il y a, par exemple pour les agriculteurs, il y a encore des élections. Mais je réponds à votre
question. Redonnez la date, hein, pardonnez-moi.
Ah, c'est 83, la dernière élection du régime général.
C'est la dernière élection
du régime général. Oui, pour le régime général, et avec des taux de participation qui étaient tout à fait convenables. Hein. Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut revenir à faire des élections? Bon, c'est secondaire, mais en tout état de cause, c'est un échec des promoteurs du projet de sécurité sociale qui est que ce ne soit pas considéré comme un bureau de poste. Mmh. Voilà, que ce soit un endroit où on a son mot à dire sur la manière dont est gérée sa sécurité sociale. Alors, il faut avoir à l'esprit que l'État a quand même toujours été présent. Hein. L'État a toujours eu le monopole de la fixation du montant des prestations et du montant des cotisations. Mais pour la gestion au quotidien, eh bien, oui, au tout départ, c'était d'abord les syndicats de salariés qui avaient le pouvoir, avec une partie de pouvoir passer aux organisations patronales, et puis par la suite, on est allé vers un paritarisme, terme pompeux qui désigne le fait qu'à parité, dans les conseils d'administration des caisses, vous trouvez des représentants des syndicats et des représentants du patronat, désormais.
Il faut aussi parler, Nicolas da Silva, des droits. Les systèmes de protection de 1945 ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Trois exemples. En 1945, on n'est pas couvert en matière de chômage par la sécurité sociale. On n'est pas couvert en matière d'invalidité. On n'est pas non plus stricto sensu couvert en matière de pauvreté. Alors comment cet élargissement des droits et de l'accès aux droits se réalise-t-elle au fil des décennies ?
L'élargissement de l'accès aux droits prend beaucoup de formes, puisque la protection sociale, telle qu'elle est organisée par la sécurité sociale en 1945, c'est finalement un nombre de risques assez limité. On va en intégrer plus et on va mieux couvrir les personnes qui ne rentrent pas initialement dans le régime général, soit en créant des régimes nouveaux, et justement des régimes nouveaux où l'organisation politique de la gestion sera différente. Et évidemment, évidemment, ce qui va aussi beaucoup jouer, ça va être la création de régimes sur des nouveaux risques, notamment les assurances chômage. Donc ça, c'est vraiment une dynamique très importante. Dans le cas de la santé, si on prend celui-ci, il y a vraiment une dynamique d'universalisation qui consiste à faire que, initialement, seuls sont bénéficiaires des droits à la sécurité sociale, ceux qui cotisent et leurs ayants droit. Donc c'est pas uniquement ceux qui cotisent, les ayants droit, ça veut dire la famille, pour aller vite. Alors évidemment, ce système pose problème pour tout un tas de raisons, parce que d'abord, tout le monde n'a pas accès à un emploi qui donne droit à accès à la sécurité sociale, au régime général, mais aussi ça organise une forme de dépendance vis-à-vis de la famille. Et donc c'est une spécificité historiquement du système français qu'il est très lié à la personne qui travaille, qui généralement, historiquement, était l'homme. Et progressivement, ce qui va se passer, c'est que avec tout simplement la croissance du salariat, parce qu'il faut avoir en tête que 1945, c'est une période où le salariat n'est pas encore généralisé comme il l'est aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le salariat, c'est de l'ordre de 50% de la population. Et donc la généralisation du salariat fait que de plus en plus de monde rentre dans le régime général, mais aussi il va y avoir des dispositifs spécifiques et les dates les plus connues au niveau national. Il y a des expériences au niveau départemental, mais ça va être la CMU et la CMUC en 2000 et qui vont être... Couverture médicale universelle, universelle complémentaire, qui vont donner une couverture de base et une couverture complémentaire, de base pour tout le monde, ou presque, disons, et complémentaire pour sous condition de revenus. On aura plus tard la fusion de... la création de quelque chose qui s'appelle l'aide à l'acquisition du complémentaire santé. Tout ça va être fusionné dans ce qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle la C2S, la couverture santé solidaire, qui offre une couverture de complémentaire sous condition de ressources. Il y a aussi l'AME qui est créée au même moment.
L'aide médicale d'État. Pour les personnes étrangères, leur permettre d'avoir accès à certains droits sociaux sur le sol français.
Et plus récemment encore, la PUMa, la protection maladie universelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste très très peu de personnes qui, pour le risque santé, ne sont pas couvertes.
Je ferme un instant la parenthèse du diagnostic. On va entrer dans les défis contemporains que doit affronter la sécurité sociale et peut-être un débat entre vous. On va commencer ce débat tout naturellement parce que Georges Pompidou appelait le trou de la sécu.
Pour la première fois en 1975, la sécurité sociale sera en déficit de 4,5 milliards de francs. Et pour 1976, l'avenir est encore plus préoccupant puisque l'on prévoit un déficit de 7 à 9 milliards de francs. Conséquence, il va falloir améliorer et renforcer le financement actuel de la sécurité sociale. On peut augmenter les cotisations, mais elles sont très lourdes, et particulièrement pour les entreprises qui fournissent au régime général près de 80% de ses recettes. On peut aussi assurer la prise en charge de certaines dépenses par la collectivité nationale, par l'impôt. En fait, c'est un choix difficile et il concerne tous les Français.
Le problème est logiquement posé par ce journaliste dans une archive du 28 octobre 1975. Il faut donner quelques chiffres. Le trou de la sécurité sociale s'élève à 15,3 milliards d'euros. C'était le chiffre de 2024. Beaucoup plus qu'en 2023, mais nettement moins que les 18,2 milliards d'euros qu'anticipait la loi de financement de la sécurité sociale adoptée en février. Auparavant, comment aborder cette question, Julien Damon ? Est-ce que ce trou de la sécu, pour reprendre cette expression, fragilise véritablement, profondément la sécurité sociale aujourd'hui dans son existence même ?
Le trou de la sécu lui-même, c'est-à-dire le fait que nous ayons un solde négatif une année donnée entre les recettes qui viennent financer le système et ses dépenses, c'est pas en soi problématique. Certaines années, admettons qu'il y ait une épidémie de type Covid, certaines années, admettons qu'il y ait une récession économique, un déficit se légitime dans le système. Ce qui est extrêmement préoccupant, c'est la répétition des déficits et mieux encore, un endettement social qui devient difficilement gérable.
Ce qui est le cas aujourd'hui donc.
Ce qui est le cas aujourd'hui. Ceci dit, vous évoquiez Georges Pompidou. Georges Pompidou est le premier à populariser l'expression de trou de la sécurité sociale. En 1967, pour être précis, interviewé à la télévision, il parle de ce trou de la sécurité sociale. Alors, il y a plein de débats ultra-techniques et politiques sur ces affaires. C'est vrai que si on a un trou de la sécurité sociale, c'est parce que en France, on distingue la sphère sécurité sociale du reste des dépenses publiques. Personne ne va vous dire qu'il y a un trou de l'éducation nationale ou il y a un trou de la gendarmerie nationale. Ce sont les deux institutions majeures qui me viennent viennent à l'esprit.
Il y a même, pardonnez-moi, un projet de loi de finances.
Ah, il y a en France, oui, ah oui, absolument.
Et un projet de loi de la sécurité sociale, s'agissant de la sécurité sociale.
Absolument, et ça c'est depuis
donc, par le Parlement.
Ces réformes Juppé que vous évoquiez du milieu des années 90, on distingue bien ce qui est d'une part ce qui relève des finances de l'État et de l'autre ce qui relève du financement de la sécurité sociale, qui sont deux mondes très interconnectés, mais quand même à logique et à projet différents. Mais je reviens sur les affaires de sous, de mon point de vue, enfin, on peut longuement en débattre, nous sommes quand même confrontés à des difficultés majeures. Je ne sais pas quel ton prendre là-dessus, qui ne relève pas uniquement, je le répète, du déficit en lui-même, du trou, mais de l'accumulation des conséquences de ces déficits et qui sont cet endettement. Et qu'est-ce qu'est la conséquence, même si la formule est peut-être trop employée, c'est qu'aujourd'hui, nous finançons des soins courants, nous finançons les dépenses de pension de retraite par ce qui va être prélevé sur nos enfants, nos petits-enfants, les arrière-petits-enfants des retraités. C'est ça qui se passe. Et à la rigueur, on pourrait dire, pourquoi pas? Mais ça n'est pas le projet de la sécurité sociale, ça n'est absolument pas le projet de 1945.
Nicolas Da Silva, cet endettement structurel de la sécurité sociale, est-ce qu'il vous inquiète de la même façon?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous inquiéter dans le monde contemporain et le déficit de la sécu, l'endettement de la sécurité sociale n'est pas le premier sujet de préoccupation. Enfin, je veux dire, il y a dans le monde contemporain, il y a des choses qui sont vraiment beaucoup plus inquiétantes comme, je sais pas, le changement climatique, les guerres qui se profilent, les relations internationales très troublées. La question des finances publiques est une question importante. Il ne faut pas donner l'impression qu'on considère que le fait qu'il y ait des déficits qui sont tout le temps, enfin qui sont redondants, pardon, n'est pas un problème. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la question du déficit de la sécurité sociale est souvent instrumentalisée. C'est-à-dire qu'elle est instrumentalisée pour aller vers des réformes d'un certain type plutôt qu'un autre. Et cette thématique, cette idée, elle a été formalisée par un collègue, sociologue qui s'appelle Julien Duval et qui explique qu'il y a le mythe du trou de la Sécu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée du mythe. Ce n'est pas l'idée que les recettes sont supérieures aux dépenses et donc il n'y a pas de déficit. Comptablement, il y a des déficits. Voilà. Par contre, il y a une construction politique, médiatique, qui attribue les responsabilités, qui biaise le débat. Et en fait, quand on regarde historiquement le trou de la Sécu, la question du déficit de la sécurité sociale est instrumentalisée, non pas à partir de Georges Pompidou, bien avant, dès la fin des années 40 et début des années 50, on a des déficits sur la branche maladie. Et on utilise ces déficits pour justifier des premières réformes qui, à l'époque, sont surtout des réformes qui sont liées à la gouvernance de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on a en fait la même chose. Quand on parle aujourd'hui du trou de la Sécu, il y a cette idée d'une institution très mal gérée. En fait, la sécurité sociale, ce n'est pas du tout une institution qui est très mal gérée. Il y a l'idée d'une problématique qui serait liée aux fraudeurs, à des gens qui seraient en situation d'abus systématique. Et donc, ce serait de là d'où viendraient les difficultés financières de l'institution. Alors,
pas seulement,
quand on regarde...
Je me permets juste de vous couper, pas seulement, pardonnez-moi, il y a aussi beaucoup de personnes, de responsables politiques, crédibles, qui mettent en avant l'explosion des dépenses de santé du fait du vieillissement de la population, du fait de l'augmentation du prix de l'innovation médicale, du fait de la multiplication des affections longue durée, des maladies chroniques, il y a quand même beaucoup de sujets structurels au-delà justement de cet instrumentalisation.
Bien sûr. Et on ne parle là que de l'assurance maladie. Vous avez au sein du débat sur la sécurité sociale, le gros débat des retraites.
Bien sûr. Nicolas Da Silva. Mais donc, enfin, l'idée c'est quand même de prendre un pas de recul et de dire que s'il y a des déficits, c'est d'abord parce qu'il y a des choix politiques. Il n'y a aucune fatalité. Et ces choix politiques, il faut les analyser sur le long terme. Et en fait, ils sont surdéterminés, en particulier par une politique économique qui, disons, se développe de façon très importante dans les années 80 et qui et continue jusqu'à aujourd'hui, qui est une politique de lutte contre le salaire. Alors, de lutte contre le salaire direct, notamment par des mécanismes qui visent à désindexer les salaires, mais aussi de lutte contre le salaire indirect avec des politiques d'exonération des cotisations sociales, d'exemption de cotisations sociales, de individualisation des rémunérations. Donc, tout ça concourt au fait que, structurellement, les recettes de la sécurité sociale sont plutôt freinées. Alors que de l'autre côté, on a un vrai sujet également, qui est celui des besoins. Et les besoins augmentent, c'est vrai. Les besoins augmentent parce que la population vieillit. Et aussi parce que la population vieillit, les besoins augmentent pour la santé, pour les retraites, on l'a dit, mais pour tout un tas de sujets. Et donc, la question politique, de politique économique, est de savoir est-ce que, d'une part, la politique économique et la politique de l'offre, elle a été efficace, et en fait, tout démontre qu'elle n'a pas été efficace, en plus d'avoir réduit les recettes publiques. Et est-ce qu'on peut faire autre chose ? Et bien sûr, on peut faire autre chose. Et donc, on peut sortir de cette idée selon laquelle les principaux responsables, ce sont les bénéficiaires. Et donc, toute réforme un peu sérieuse ou rigoureuse, ce serait des réformes de réduction des droits. Je pense qu'il est possible de voir les choses autrement.
Je précise d'un mot rapide que l'architecture même des recettes de la sécurité sociale a largement évolué au cours des 80 ans, hein, largement fondée sur les cotisations sociales. Depuis les années 50, 60, 70, c'est désormais l'impôt qui finance en grande partie à travers la CSG et la CRDS cette sécurité sociale, qu'une part de la TVA aujourd'hui est fléchée en direction de la sécurité sociale. Bref, ce financement s'est complexifié, il est moins fondé sur les cotisations sociales qu'il ne l'était. Julien Damon, est-ce que vous êtes d'accord vous-même avec cette notion du mythe du trou de la sécurité sociale ?
Oh, il faut quand même qu'il y ait un débat. Je suis assez réservé sur l'idée même de prononcer le mot mythe pour désigner les déséquilibres financiers qui sont préoccupants. Ceci dit, c'est une affaire d'abord politique, ça on veut bien le concevoir. Ceci dit, qu'est-ce que représente la sécurité sociale au sens plus large de protection sociale ? Quand on est en 1945, rapportons ça au PIB, sans faire de grands chiffres et de grandes bagarres, mais c'est une manière de concevoir ce qu'est l'ampleur de la protection sociale par rapport à la richesse nationale. Ça n'est pas peanuts, mais c'est moins de 10% du PIB, la protection sociale, en 1945. Quand on est à la fin des années 50, c'est 15% du PIB. Aujourd'hui, cocorico, même si on peut se
parler des dépenses,
de détails, je parle de l'ensemble des dépenses, l'ensemble des dépenses de protection sociale. Aujourd'hui, on est un tiers du PIB et on est, modulo 1000 débats de notes de bas de page, les champions du monde en la matière. Donc, contre l'idée d'abord qu'il y a un désengagement et qu'il y a une diminution des droits, même si on pourra toujours trouver ici ou là des coups de rabot dont on peut discuter, il y a une progression quasi permanente annuelle des dépenses de protection sociale. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont trop importantes.
Il y a ça peut correspondre aux besoins, comme Nicolas.
Oui, alors il y a un sujet, c'est que c'est à la fois très compliqué, la protection sociale est très simple. La simplicité, c'est que c'est des recettes, il y a des sous qui rentrent, et c'est des dépenses, il y a des sous qui sortent. Voilà. Donc en effet, il y a des gens qui vont vous dire, pour régler les déséquilibres, moi, je veux davantage de recettes. Par exemple, je veux davantage de cotisations. Pourquoi pas, hein. D'autres, qui, comme moi, vont vous dire, là, quand même, on a un niveau de prélèvement obligatoire, et là, immédiatement, je sens le tombereau d'insultes sur le libéral, qui sont problématiques, mais on peut en discuter. Parmi les questions que vous évoquiez, il y a la répartition entre les cotisations, qui est dans la logique salariale, que Nicolas Da Silva évoquait, et puis, il y a le recours accru à la fiscalité.
À l'impôt.
À l'impôt qui est connu désormais sous trois lettres, que les gens comprennent pas bien, c'est la contribution sociale généralisée. S'ils comprennent pas bien, qu'ils regardent, mais ils travaillent un jour sur dix pour financer cette CSG. Ça, c'est une incitation à saisir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe?
Je me préjuge juste d'un impôt créé en 1991 par Michel Rocard, et qui, en gros, prélève un pourcentage, ça dépend des masses financières, mais sur l'ensemble des revenus du patrimoine et des revenus du travail.
Oui, et des revenus des jeux également. Bon, mais quelle est l'idée forte qui est derrière tout cela? Le recours à la fiscalité, c'est pas pour mettre fin au projet de sécurité sociale. C'est, certes, pour combler certains déficits, c'est aussi pour accompagner le projet d'universalisation. Là, on va tomber d'accord, je pense, pas sur les montants, sur l'orientation, mais l'idée de généraliser au-delà des travailleurs conduit à prélever sur d'autres ressources que le seul travail. Et donc, à partir de 1990, il y a les chocs du chômage. C'est un gros sujet, d'ailleurs. La sécurité sociale, dans son épure, elle commande l'extinction du chômage. Donc, le choc du chômage, depuis les années 70, est un problème majeur pour la maison sécurité sociale. Donc, oui, il y a des trous qui sont liés au chômage. Il y a insuffisamment de cotisations qui rentrent. Mais il y a une extension de la sécurité sociale, des protections sociales, des garanties, des couvertures à des personnes qui ne cotisent pas. Et donc, il faut une autre ressource, qui est la ressource fiscale. Vous l'avez évoqué sous le plan de la CSG, une partie de l'impôt sur le revenu, une partie déjà de la TVA. Et en grande masse, si on regarde la sphère sécurité sociale, elle était en quasi-intégralité financée par de la cotisation, elle est encore en majorité financée par de la cotisation. Mais c'est là où il faut entrer dans le détail, et pas longuement, il faut regarder risque par risque. Un risque qui s'appelle accident du travail, maladie professionnelle, qui soit financé à 100% par des cotisations professionnelles, tout le monde peut le comprendre. Les retraites, elles vont être proportionnelles, vos pensions de retraite, à ce que vous avez cotisé. Donc elles reposent sur des cotisations, et parfaitement légitime. Une assurance maladie qui n'a, pour la grande partie, la très grande partie, la quasi-intégralité des dépenses, rien à voir avec votre activité professionnelle, il est logique qu'elle soit financée par de la fiscalité. La politique familiale est encore majoritairement financée par une cotisation sociale. Non, on pourrait basculer vers de la fiscalité. Donc, ce n'est pas que des jeux de bonneteau et de l'architecture très compliquée, mais il y a de la logique derrière tout ça.
Nicolas Dassulman, une réaction courte, j'ai encore plein de sujets.
Oui. Je voudrais simplement dire que l'enjeu, à mon avis, n'est pas tant, même s'il est important de savoir comment est-ce qu'on va financer la sécurité sociale, plutôt CSG, plutôt cotisation. L'enjeu, c'est est-ce qu'on veut répondre aux besoins qui sont en augmentation. Si on veut le faire, alors il faut augmenter les prélèvements obligatoires. Et ce n'est pas forcément un problème. C'est-à-dire qu'il faut quand même insister sur le fait que le trou de la sécu, le déficit, est construit par des décisions politiques. Je prends un seul exemple qui est bien connu, le Ségur de la santé, donc des mesures de rémunération qui coûtent annuellement 13 milliards d'euros. Et en fait, ce qui est écrit dans les rapports de la Commission des comptes à la Sécurité sociale, c'est que c'est exactement l'ordre de grandeur du déficit de l'assurance maladie ces trois dernières années. Cette année, le déficit de l'assurance maladie, c'est 16 milliards. Le Ségur non financé, c'était 13. Donc on voit bien que si on demande à la Sécurité sociale d'en faire plus, mais sans financement, et forcément ça fait des déficits. Et juste un deuxième tout petit point, c'est sur l'augmentation des prélèvements obligatoires. Alors, je ne veux pas du tout m'opposer au discours libéral, ce n'est pas du tout le sujet. Mais en tout cas, il faut poser les questions de la façon dont elles se posent. Les prélèvements obligatoires, c'est juste un indicateur statistique. Or, cet indicateur, on peut le manipuler, notamment avec la question des complémentaires santé. Si on finance les soins par de la sécurité sociale, ça augmente les taux de prélèvements obligatoires. Si on les finance par les complémentaires, ça ne les augmente pas. Sauf que la réalité, c'est que d'un point de vue purement économique, la sécu, c'est non seulement plus efficace, c'est moins cher, mais en plus c'est plus égalitaire. Donc il faut être quand même attentif aux arguments qui considèrent qu'on peut décider de socialiser plus pour protéger plus.
Julien Damont, pourquoi vous riez non pas à gorge déployée?
Non, pas à gorge déployée, je souris parce que ce qui est amené là, avec une argumentation qui est d'une splendide logique, amène plein de débats. Par exemple, il y a une critique radicale à l'égard de l'étage complémentaire d'assurance maladie que vous souhaitez fusionner. Hein. Il y a ensuite, oui, des arguments qui moi me font sourire, qui ne sont pas chez vous là-dessus, mais qui sont qu'aujourd'hui, puisque pour les mutuelles, pour les complémentaires santé, aujourd'hui, c'est une obligation que pour l'employeur de vous proposer une assurance maladie complémentaire et d'en financer la moitié. Ce qui fait que c'est une cotisation obligatoire. C'est un prélèvement obligatoire. C'est un prélèvement, ça c'est sûr, et il est obligatoire. Et pourtant, ce n'est pas compté comme un prélèvement obligatoire. Vous avez 2 heures pour faire une dissertation là-dessus.
Il faut deux secondes.
Je vais mettre dès que l'émission sera terminée. J'avance quand même un peu sur les sujets. Hein. Un chiffre, un seul, les personnes âgées de 65 ans et plus sont près de 4 fois plus nombreuses en 2020 qu'en 1950. On a créé un cinquième risque de la sécurité sociale en 2019, notamment celui de la dépendance, pour permettre d'accompagner les plus âgés de notre société. Est-ce qu'on a mis derrière les moyens qu'il fallait? Est-ce que dans le fond, la sécurité sociale est bien dotée aujourd'hui? Je connais votre réponse à tous les deux, pour accompagner ces personnes âgées dans la fin de l'existence. Qui veut commencer? Julien Damont.
Moi, je veux bien le faire.
Julien Damont, vous lancez.
D'accord avec moi, mais sur ce cinquième risque, alors, qui est en gros le sujet de la dépendance des personnes âgées. Il y a la dépendance des personnes handicapées. Non, on n'a pas mis les moyens. Mais parce que j'ai été à faire le tableau des chiffres et dire oui, un tiers du PIB, champion du monde, etc. Ça ne veut pas dire que si on dépense beaucoup, on ne doit pas dépenser encore davantage. Le système de protection sociale à la française a des vertus. Sur 8 décennies, il y a des progrès. Mais il y a des défauts. On compte, selon les méthodes les plus conventionnelles, 20% d'enfants pauvres en France. Il y a des déserts médicaux, il y a des difficultés d'accès aux soins, et il y a pour les personnes âgées des insuffisances. Donc oui, on doit pouvoir faire des efforts collectifs, mais qui sont à mon avis de 2 ordres. D'une part, peut-être des prélèvements supplémentaires, vous voyez.
Augmenter les recettes, donc.
Oui, et de l'autre côté, sur certains plans, réviser de façon à faire des économies, qu'il s'agisse des retraites, de l'assurance maladie, ou même de la politique familiale. J'ai tout plein d'idées en la matière.
Nicolas Da Silva, autant d'idées en la matière pour rendre la dépense plus efficace, pour reprendre le jargon?
Et évidemment. Enfin, moi, je ne voudrais pas faire croire qu'on ne peut pas faire des économies. Bien sûr qu'on peut faire des économies. L'enjeu, c'est de quand même comprendre que malgré tout, la dynamique de besoin est très forte. Donc, même si on fait des économies, il faut se poser la question des recettes supplémentaires.
Elle est structurellement forte.
Ensuite, sur les économies, ce que j'aurais à dire, c'est le fait que ces dernières années, on a surtout regardé des économies du côté des bénéficiaires. Et si je prends en particulier la question du système de santé. Et donc là, doublement des franchises. Là, on a un plan, un PLFSS qui prévoit d'autres mesures sur les bénéficiaires.
Projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Notamment reculer le droit des personnes en affection longue durée, c'est une possibilité. Évidemment, si on fait ça, on fera des économies. Mais ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'on regarde beaucoup moins du côté des offreurs. Or, en fait, toute la thématique de la politique publique, c'est de dire qu'il faut responsabiliser les patients. Et très très peu responsabiliser ceux qui ont le pouvoir dans le système de santé.
Et qui les offre, pardonnez-moi, c'est les établissements, par exemple, les établissements de santé.
C'est les établissements de santé, les médecins, enfin toutes les personnes qui produisent ces soins. Le patient, en fait, lui, il est finalement assez démuni dans le système de santé, puisque par exemple pour les médicaments qui sont remboursés, c'est les médicaments prescrits. Quand on va à l'hôpital et qu'on est traité d'une manière ou d'une autre, c'est jamais nous qui décidons, c'est les personnes qui sont là qui décident pour nous. Or, du côté des offreurs, il y a des marges de manœuvre qui sont très importantes, notamment du côté du développement ces dernières années d'un capitalisme sanitaire qui est lui aussi très dynamique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a de plus en plus d'acteurs capitalistes puissants qui s'emparent, qui prennent possession des formes de production de soins traditionnels. Par exemple, on a beaucoup parlé des laboratoires d'analyse médicale, on peut parler des cliniques, on peut parler des EHPAD, si on veut aller dans un champ un tout petit peu différent. Et donc là, du côté des offreurs, finalement, il y a beaucoup moins de vigueur à réformer. Alors que, en fait, on sait que c'est eux qui ont le pouvoir. Et donc, il serait intéressant d'aller aussi de ce côté-là.
Si les offreurs étaient là, du côté des médicaments, ils seraient là en train d'entonner leur course habituelle, qui est de dire que c'est toujours du côté des médicaments qu'on va trouver les ressources, etc. Donc, ce que je pense, c'est que quand on parle de sécu, on fait cette erreur, et tous les deux, je crois qu'on est d'accord pour dire que la sécu ne se résume pas à l'assurance maladie. Sécu, on pense notre carte vitale. S'il y a des efforts à faire, c'est peut-être dans d'autres domaines. S'il y a des efforts à continuer à faire, c'est en matière d'assurance maladie. Mais s'il y a des économies à faire, c'est dans le gros morceau. Le gros morceau, c'est que la moitié des dépenses de sécu, c'est les retraites, ambiance.
Est-ce qu'il faut encore élargir les objets d'application de la sécurité sociale ? Je vous pose la question à l'un et l'autre. On parle énormément ces temps-ci de sécurité sociale de l'alimentation. On parle même de sécurité sociale de la mort pour prendre en charge collectivement les frais d'obsèques. Julien Damon, est-ce qu'il faut se centrer sur l'essentiel ou tenter d'élargir l'intervention de la sécurité sociale ?
Bah, j'ai essayé de faire une réponse sociale-démocrate. La minute France Culture, c'est de citer Michel Foucault, boum, 1983, il a cette formule sympathique qui est de dire « la sécurité sociale est un système fini », ce qui n'est pas faux financièrement, la sécurité sociale est un système fini face à des demandes infinies. Donc voilà, c'est pas un argument ultra-libéral que de dire « oui, quand même, attention à ce dont on dispose ». Maintenant, la logique historique de la sécurité sociale, ça a été de s'étendre et de s'étendre à des nouveaux risques, c'est vrai.
Réponse, Nicolas Da Silva, vous avez pris 30 secondes à peine. Donc,
moi, je le donne, Nicolas c'est ma tournée générale.
Moi, je trouve que ces projets sont des projets enthousiasmants parce qu'ils mettent la lumière sur le fait que la sécurité sociale, c'est pas simplement une couverture des risques, c'est aussi une façon d'organiser le financement et la production dans une société. Et c'est une façon de le faire alternative au marché. Si on prend le cas de la sécurité sociale de l'alimentation, le diagnostic, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'argent public dans l'alimentation, mais cet argent public est finalement mal utilisé parce qu'il n'y a pas d'incitation à produire des produits de bonne qualité. Il n'y a pas d'incitation à avoir des produits peu chers qui permettent l'accès à l'alimentation. Et il y en a des problèmes d'accès à l'alimentation en France. Et donc, la question que posent ces collectifs, ces initiatives, c'est et si on socialisait, si on démocratisait l'usage de l'argent public pour produire de la nourriture et distribuer cette nourriture de façon très différente. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que si on cadre avec aussi la sécurité sociale traditionnelle, peut-être que mieux produire notre nourriture, manger mieux, ça fera moins de dépenses de santé.
Vous pouvez récupérer vos 30 secondes, Julien Damon.
Je récupère, non pas sur la...
Est-ce qu'il vous convainc justement ces arguments liés à une sécurité sociale de l'alimentation ?
Alors non, sur la sécurité sociale de l'alimentation, je serais plutôt réservé parce que je vois même pas la manière dont ça pourrait s'organiser. Maintenant, sur la sécurité sociale de la mort, il faut avoir à l'esprit qu'il y a déjà un risque d'essai qui est assuré par la sécurité sociale. On peut bien imaginer que le décès est un risque important. Alors, c'est surtout pour les conjoints, les survivants. Il y a un capital d'essai qui est versé par les caisses d'assurance maladie qui fonctionne pas très bien. Donc, qu'on complète ceci de façon à ce qu'il y ait une certaine égalité et dignité pour les obsèques, ça me semble là judicieux.
Bien, ce débat se termine sur la mort et dans la joie. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté ce débat sur les 80 ans de la sécurité sociale. Julien Damon, je rappelle que vous êtes sociologue, spécialiste de la protection sociale et enseignant à Sciences Po et HEC, l'auteur d'un petit éloge de la Sécu qui est apparu aux presses de Sciences Po le 3 octobre dernier. Nicolas Da Silva, vous êtes économiste, maître de conférence à l'université Sorbonne Paris Nord et l'auteur d'un ouvrage intitulé « La bataille de la Sécu » qui est apparu à la Fabrique en 2022. Je signale par ailleurs cette vidéo qui a été créée par l'équipe numérique de France Culture et qui circule sur l'ensemble des réseaux sociaux où vous pouvez retrouver France Culture. La sécurité sociale fête ses 80 ans. Cela, c'est pour aller plus loin. Et merci à toutes celles et ceux qui ont préparé cette émission. Diane de Vencet, Stéphanie Villeneuve, Juliette Mouélic, Antoine Héral. À suivre, après le journal, une autre question. Comment décrypter la novlangue de Donald Trump et de Poutine?